Le journal Ramapai. Arrestation du pasteur Coutinho Fernando. Une marche de ses fidèles a été réprimée cet avant-midi par la police. On compte des blessés parmi les manifestants. Fin du long brassage à Rumangabo dans le Nord Kivu. Près de 3500 éléments de la 9e brigade vont pouvoir intégrer l'armée régulière. À l'Équateur, les agents de la Commission électorale indépendante reçoivent depuis hier la deuxième tranche de leurs prestations. Mais il y a encore des problèmes qui se posent. Certains agents ont été oubliés sur les nouvelles listes de paix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une marche des fidèles de Coutinho réprimée cet avant-midi dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Partie du siège de leur église, les manifestants sont descendus sur le boulevard du 30 juin réclamant la libération du pasteur Coutinho Fernando, arrêté hier dans la capitale. Cette répression de la police était grande, qu'elle a fait des dégâts. Plusieurs personnes sont blessées parmi les fidèles comme des passants. Une dizaine de véhicules sont endommagés. Témoignage d'une fidèle au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Nous étions à l'église. À la place de la prière matinale, les étudiants sont venus nous proposer de descendre dans la rue, réclamer la libération du pasteur Coutinho. Puis, nous avons marché jusqu'au bureau de Jean-Pierre Mbemba. Sur place, les policiers sont arrivés pour nous disperser. Ils nous ont tabassés et l'un d'eux m'a ravi mon sac avec 60 dollars. Nous sommes vraiment nombreux, mais en fuyant, chacun a pris sa direction. En tout cas, tous les fidèles étaient là à la marche.
Autre marche à Kipushi dans le Katanga. La population a manifesté ce matin pour protester contre les coupures intempestives d'électricité. C'est depuis 5 mois que cette situation est observée dans cette ville située à 30 km de Lubumbashi. Les manifestants ont été dispersés par la police. Récit des faits avec Paulin Munanga à Kipushi.
Parmi les manifestants, il y a plusieurs élèves. Ils disent en avoir assez des coupures intempestives du courant électrique, plus précisément du côté cité Jekamine. Chaque jour de 4h du matin jusqu'à 22h passées, il n'y a pas de courant. Selon les responsables de la SNEL Kipushi, cette situation concerne la société Jekamine, car c'est elle qui gère toutes les cabines de la cité Jekamine. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore des bilans des affrontements entre les manifestants et la police, mais il y aurait eu plusieurs blessés. Depuis Kipushi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Kassai Oriental, dans le district du Sankuru, les étudiants de l'ISTEM Lodja se font justice en incendiant une maison d'habitation. À l'origine, un accident de circulation samedi dernier. Après avoir cogné un enfant avec son vélo, un étudiant s'est fait tabasser par la famille de la victime. En réaction, les étudiants de l'Institut ont incendié la maison de cette famille. La confrontation s'est poursuivie encore ce matin. Les étudiants ont tabassé un policier en faction sans raison apparente. Les forces de la police ont procédé à des arrestations dans les milieux estudiantins. La comparution se tient ce midi. La direction de l'ISTEM est elle aussi entendue. Rappelons que les étudiants de ce même institut avaient tenté en mars dernier de faire libérer de force un des leurs arrêtés au parquet. Nord Kivu, près de 3500 éléments de la 9e brigade viennent de terminer leur brassage au camp de Rumangabo ce lundi 15 mai. Initialement prévue pour 45 jours, cette opération a duré 6 mois. Plusieurs autorités, tant militaires que civiles, ont fait le déplacement pour cet événement. Retrouvons en direct du camp de brassage de Rumangabo, Sylvestre Kilolo.
Rumangabo, un cas de brassage en territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, vient de sortir une nouvelle brigade composée de 3444 éléments. Celle-ci s'appellera la 9e brigade intégrée. Sa formation a débuté en décembre dernier avec 3510 éléments. Selon les responsables administratifs du camp de brassage, la brigade produite à ce jour a perdu 14 éléments et 17 éléments seraient mutés. 102 officiers sont mis à dispo. Toujours selon ses responsables, cette brigade a encore à son sein 556 éléments au macaron rouge, c'est-à-dire des éléments éligibles pour la retraite. La cérémonie d'aujourd'hui a été patronnée par les gouverneurs des provinces Egem Serufulinga et Bateka, entourés par les générales de la 8e région militaire, de l'inspecteur provincial de la police, ainsi que des autorités militaires et civiles de la MONUC. De Rumangabo, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
District de l'Ituri, à Nyoka, les FRDC ont repoussé à 18 km du lieu des combats la coalition des miliciens du FNI et du MRC. C'est depuis une semaine que les forces de l'armée régulière affrontent ces miliciens dans cette localité située à 60 km de Mahagi. Mamia Lili.
ce vers 4 heures du matin que les FARDC ont réussi à repousser la coalition de miliciens à plus de 18 km de Nioka dans les villages de Dera et Libi. Le bilan n'a pas évolué dans les deux camps. Selon le chargé des opérations militaires à Nioka, le major Angolo Mbula, il y a eu 47 miliciens tués et plusieurs blessés. Du côté FARDC, on dénombre toujours un mort et plusieurs blessés. Pour le chef d'état-major des forces de la MONUC, le général Christian Oudé, la MONUC est prête à apporter son appui au FARDC pour la poursuite des miliciens jusqu'à leur dernier retranchement. On l'écoute.
Tout le monde sait que ce sont des alliances contre nature. Ce ne sont pas les mêmes gens. Ce sont des gens qui se sont toujours combattus. Ce sont des égoïstes qui veulent garder leur petit territoire. La MONUC, elle est là pour aider les gens. Et bien sûr que nous aidons les FARDC. Nous sommes en mesure de les aider dans la région de Nioka, comme dans toute la région de l'Ituri d'ailleurs.
Le chef des cités de Mahagi, localité située à 60 km de Nioka, nous signale qu'un mouvement de population est observé. Celle-ci a fui les affrontements vers le village environnant des Dengo et Ngote. Les épouses des militaires se sont également enfuies vers Mahagi hier soir, nous a confirmé le major Mbaya, commandant du bataillon. Mami Alili Chibangu, Bounia, Radio Kapi.
Faciliter la cohésion sociale entre les femmes violées, les ex-combattants Maïmaï et initier les petits projets générateurs de recettes, c'est l'objectif poursuivi par les partenaires de l'ONG internationale Oxfam, Novib. Le week-end, ces deux ONG ont remis du matériel à 450 familles, parmi lesquelles des victimes de viol. Écoutons les explications d'Evelyne Roy-Mans, coordonnatrice de Novib. Elle est au micro de Gabriel Ouaménia.
Ce qu'on vise avec cela, bon, c'est deux objectifs. Un, c'est de restaurer leurs moyens de survie. Mais deux aussi, on voudrait toujours soutenir la cohésion sociale dans les villages. Parce que les gens ont souvent été absents pendant longtemps, pendant la guerre. Il y a d'autres, donc des ex-combattants, par exemple, qui viennent se réintégrer. Des femmes violées qui ont été un peu mises à l'écart pendant longtemps. Voilà. Par exemple, à Mumbuza, on voit un très bel exemple. Il y a des femmes violées très dynamiques, hein, qui ont même invité dans leur groupe des ex-Maïmaï et ils font ensemble de la porciculture et aussi le petit élevage de chèvres. Et ça marche vraiment bien et on voit un changement dès le début où ils se voyaient seulement de loin et maintenant ils se fréquentent, ils se connaissent, ils se parlent, ils rigolent et c'est vraiment bien de voir cela.
À l'Équateur, ouf de soulagement pour les agents de la CEI qui reçoivent depuis hier la deuxième tranche de leur prestation. Mais parmi ces agents, certains qui avaient reçu la première tranche de leur prime ne sont pas repris sur les nouvelles listes de paie. Les autres qui avaient remplacé des agents en déplacement ne se retrouvent pas non plus. L'erreur est reconnue par le Bureau de représentation provinciale qui promet d'y apporter des solutions. Dominique Colombi.
Bénéficiaires de cette deuxième tranche des prestations payées par l'APEC sont les opérateurs de saisie qui ont travaillé pour l'opération d'enrôlement des électeurs, les mécaniciens, les conducteurs, les manutentionnaires, les policiers et les témoins permanents des bureaux de vote qui n'ont pas été payés à l'issue du référendum. Mais tout le monde n'a pas de sourire aux lèvres. Certains parmi ces agents n'ont pas été repris sur la nouvelle liste des paies alors qu'ils avaient été alignés à la paie de la première tranche. Quant aux agents qui avaient remplacé des personnes malades ou empêchées, ils ne sont pas tout simplement alignés. Selon les bureaux de représentation provinciale de la CI Équateur, cette situation est due au manque d'actualisation des listes entre la PEC et la Caritas qui a payé la première tranche dans certains bureaux de relais, les bureaux de représentation provinciale.
Dans le chapitre élections, toujours au Kasaï occidental, les candidats à la députation provinciale ne semblent pas pressés. À un peu plus d'une semaine de la fin du dépôt des candidatures, l'un des cinq bureaux de réception et de traitement des candidatures n'a vu personne retirer les formulaires et deux sur cinq de ces bureaux notent zéro dossier déposé. André Kambala.
Les 54 postes à pourvoir pour la députation provinciale au Kasaï occidental ne semblent pas vides. Depuis début mai, les 5 bureaux de réception et traitement de candidature reçoivent les dossiers à compte-gouttes. Jusque dimanche soir, le rapport parvenu à la section électorale de la MONUC mentionne 603 formulaires retirés à Kananga, Chikapa, Chimbulu et Mweka. Le bureau de Dimbelenge, qui couvre le territoire de Demba et de Dimbelenge, n'a jusqu'ici vu personne venir retirer les formulaires. Sur les 603 formulaires, le bureau de Chikapa arrive en tête avec 375 formulaires, soit environ 60%. Le suivi de Chimbulu avec 180, Mweka 63 et Kananga compte 29 formulaires seulement. Au chapitre des dossiers enregistrés, le Kasaï occidental en compte à ce jour 33. La ville de Kananga arrive en tête avec 15 dossiers et le suivi de Mweka avec 11, Tikapa totalise 7, Chimbulo et Dimbelengue n'ont jusqu'ici enregistré aucun dossier. La plupart des candidats justifient cette lenteur par deux raisons. Les uns disent attendre la caution qui proviendrait des états-majors de leur parti à Kinshasa et les autres disent être en train de rassembler les moyens financiers exigés pour le dépôt de leur dossier. Tananga, André Kambala, Radio Kapi.
12h10 à Kinshasa, célébration ce 15 mai de la Journée internationale de la famille. Le thème retenu cette année par les Nations Unies est « Changer les familles, défis et opportunités ». Dans son message du jour, la ministre de la Condition féminine et famille lance un appel au dialogue au sein de la famille. Faïda Mwangiloa demande aussi à tous les responsables de faire une introspection sur les maux qui minent les familles afin de proposer une thérapeutique de choc. Au micro de Nazer Nkoko, elle explique le pourquoi du dialogue au sein des familles.
On ne parlait pas beaucoup de cas de divorce au sein des familles congolaises. Il n'y avait pas les questions des enfants de la rue. Mais tous ces défis, nous les vivons avec la détérioration de la situation sociale, résultat de plusieurs facteurs, dont l'absence de dialogue. Un enfant à la maison, la maman surgit, elle a fait tomber de l'argent et elle dit que c'est cet enfant qui a volé cet argent. Alors que l'enfant n'a pas volé, on commence à les tabasser. On ne lui a pas posé des questions. Eh bien, cet enfant peut arriver à fuir la maison tout simplement parce qu'il a été touché dans son fond intérieur. Une fille qui tombe enceinte, elle tombe enceinte parce qu'elle n'a pas l'habitude de dialoguer ou de se confier à sa mère.
Excellence, vous invitez aussi tout le monde à l'introspection sur tous les maux qui essayent de défaire la famille.
Effectivement, l'introspection parce que comme Congolais, nous avons toujours tendance à rejeter la faute aux autres. Je ne peux pas parler par exemple de la corruption pendant que moi-même je vis la corruption là où je travaille.
Au Kassa Oriental, la division du cadastre s'insurge contre le placement illicite des bornes dans la ville de Mbujimayi. Selon le chef de division Augustin Djibou, des personnes non identifiées par son service vendent et placent les bornes dans des parcelles moyennant une somme à l'insu des agents du cadastre. Dans une circulaire lancée ce week-end, le chef de division invite tous ceux qui ont des bornes à se référer au cadastre, seul service habilité aux divisions parcellaires. On l'écoute au micro de Nike Mputu.
Ici en Bujima, là où on est en train de fabriquer des blocs ciment, ils sont en train de fabriquer les bornes. Ils ne veulent même pas suivre les instructions du cadastre. D'après la loi foncière, il est interdit à tous l'usage, le commerce et même la fabrication des bornes. Beaucoup des agents qui disent qu'ils sont les agents des cadastres. À mon insu, aussi longtemps que pour planter des bornes, je dois d'abord signer l'ordre de mission. Partout, dans des communes, on me laissait attendre sans dire que non, il y a les agents de cadastre dans des communes. Aussi longtemps qu'il n'y a aucun agent de cadastre dans des communes. La population est en train de souffrir. Un travail qui peut coûter au moins 700 ou 800 francs, mais nos frères sont en train de vendre à 1500. On ne peut pas permettre à n'importe qui de commencer à fabriquer des bornes. Si eux ne veulent pas exécuter, l'État va s'occuper d'eux.
Au Bas-Congo, les bonnes pratiques en matière pour limiter l'appauvrissement de la couche d'ozone, thème abordé au cours d'un séminaire de formation des formateurs des frigoristes. Ces assises de 3 jours sont organisées par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'Environnement. De Matadi, Dani Kinda.
En matière de foie dans le Bas-Congo, l'on constate plus de dégâts, lesquels sont dus au fait que beaucoup de pratiquants dans ces domaines sont des amateurs. Pour pallier à ces problèmes, 50 participants membres de l'Association congolaise des professionnels du froid et de la climatisation section Bas-Congo, venus de tous les districts de la province, ont pu bénéficier des enseignements sur les bonnes pratiques en matière de froid. D'après l'un des participants, cette formation a aidé à comprendre la manière dont la couche d'ozone est détruite et comment nous pouvons la protéger pour éviter certaines maladies qui peuvent se manifester après 10 ans. Le représentant du ministère de l'Environnement a pour sa part demandé aux bénéficiaires de la formation de transmettre sans distorsion les connaissances acquises et le mettre en pratique car pour lui, le rejet dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est un crime contre l'humanité. Par ailleurs, le directeur du cabinet du gouverneur de province, Daniel Mayala Bilongo, a au nom du gouverneur de province rencontré la préoccupation des frigoristes, celle de limiter les dégâts pour l'intérêt de la population du Bas-Congo. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
L'actualité en dehors de nos frontières, quelques 40 000 enfants sont menacés de mort par la sécheresse qui a décimé les troupeaux dans la corne de l'Afrique malgré l'arrivée de la pluie le mois dernier, a averti lundi l'UNICEF à Genève. Après 6 mois de sécheresse, les pluies torrentielles d'avril n'ont fait qu'aggraver la situation dans de nombreux secteurs, tuant le bétail, apportant la malaria et d'autres maladies, détruisant les rares récoltes et polluant les sources d'eau, a souligné la directrice adjointe de l'UNICEF, Rima Sala, dans un communiqué. Madame Sala, qui revient d'une tournée dans la région, a souligné aussi devant la presse que l'arrivée de la pluie ne se traduirait pas rapidement par la fin de la crise alimentaire. Mesdames, Messieurs, il est 12h15 à Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvez-le sur notre site internet www.radiocapi.net.